Ce soir, j'aimerais parler des qualités du cœur, les Brahmaviharas. Et pour moi, un enseignement, c'est en fait un encouragement pour moi et pour vous à comprendre et à pratiquer. C'est ça. C'est comme ça que je vois. Et là, les Brahmaviharas, ces qualités du cœur, c'est vraiment à pratiquer. Mais comprendre, c'est quand même essentiel. Alors, je suis tombée sur une explication du terme Brahmavihara d'un moine australien. Qui explique que Brahma, c'était donc la divinité suprême des hindous, dans l'hindouisme. Et là, ce qui est retenu, c'est le pouvoir ou la puissance et l'énergie spirituelle. Et puis, Vihara, littéralement, il semble que ça veut dire la maison. Et par extension, c'est quelque chose de stable, où on peut se poser. Donc, se poser dans cet état de stabilité, dans cette méditation, cet état de méditation, d'où l'amour peut s'étendre. Cette puissance de l'amour qui peut s'étendre, du metta, des quatre formes d'amour. C'est donc comme le pouvoir de Brahma, sa puissance. C'est un rayonnement d'amour. Ce même moine, dont je n'ai pas noté le nom, il dit qu'il parlait du sens de metta, de la traduction qu'on fait, bienveillance, la plupart du temps c'est amour bienveillant ou bienveillance. Et lui, il explique que metta, c'était un mot du temps du Bouddha, qui était un mot de la langue courante, qui exprimait un sentiment courant que tout le monde connaissait. C'était pas du tout un truc spirituel. Et que le Bouddha aurait employé exprès ce mot de la langue courante pour exprimer quelque chose que tout le monde pouvait sentir et comprendre. Alors lui trouve que bienveillance, c'est pas un mot qu'on emploie tous les jours. Dans la vie de tous les jours, c'est vrai que c'est pas le mot qui vient le plus souvent. Et puis maintenant, le mot amour, ben, on l'emploie à beaucoup, à toutes les sauces. On aime aussi bien ses enfants que Dieu, que la glace à la fraise, ou une émission de télé, ou je ne sais. C'est délicat d'employer ce mot d'amour. Pour Thich Nhat Hanh, on a bien entendu l'autre soir que c'était l'ouverture, une ouverture totale, une présence. Et puis les chrétiens, Dieu est amour. Pour moi, c'est vraiment une totale ouverture dans ce que je sens ou comprends. Puis les jeunes maintenant, ils kiffent. Je connais pas bien, mais c'est en tout cas, j'ai souvent entendu ce mot. Ils kiffent leur petite copine, ils kiffent. Alors, je sais pas s'ils kiffent Dieu ou si Dieu les kiffe. Enfin. fin, c'est... c'est assez intéressant, ce mot. Le Bouddha, lui, il a comparé ce mot, ce sentiment, à l'amour d'une mère pour son enfant. C'est ce qu'on chante, hein, quand on chante tous les jours. C'est vraiment, quand arrive un bébé, c'est extraordinaire. C'est l'ouverture totale. C'est qu'un seul désir, c'est qu'il aille bien et de l'aimer. Et de... En fait, c'est sans condition, vraiment. On n'attend rien de lui. Alors, je ne sais pas si vous avez eu des enfants, vous voyez. Si vous n'avez pas eu, vous pouvez très bien sentir. On a tous eu une mère. On l'a vécu. On a reçu cet amour d'une mère. Alors, le Bouddha propose qu'on développe cet amour. Il dit, cet amour, on l'a en nous. On ne pourrait pas le développer si on ne l'avait pas. Mais souvent, on ne sait pas. On ne sait pas trop. Où il est, comment. Alors c'est ça sa proposition, de développer l'amour. Mère Teresa, elle dit une phrase super, elle dit, nous ne pouvons pas faire de grandes choses dans ce monde, nous ne pouvons faire que de petites choses avec un grand amour. Alors la pratique de metta, c'est cette pratique qui permet de rendre ce sentiment stable et fiable et qu'on le retrouve. Et si on a, comme on nous dit, cet amour en nous, du coup il n'y a pas besoin d'aller le chercher, il n'y a pas besoin de courir après. On peut revenir là, c'est ce mouvement qu'on fait ici, on revient ici. Et si on arrive à ne pas courir après l'amour, si on arrive à le trouver en nous, eh ben on peut offrir aux autres dans le monde. Ça change bien. Alors on peut vérifier pour nous comment c'est. Et par ces exercices de métta qu'on fait, eh bien, on développe ce sentiment, cette ouverture, cette attitude. Et petit à petit, ça s'intègre, ça se fait. Alors, il y a une distinction à faire entre cet amour qui est ouverture et puis l'amour comme dans un film romantique qui est une... Enfin, je dis ça. C'est peut-être pas toujours. Hein. Qui est attachement, qui est justement cette recherche de ce qui me manque. Essayer de combler un vide. Alors c'est important d'observer comment j'aime. Ça, on peut le faire vraiment. Est-ce qu'il y a des attentes et des restrictions? Est-ce que c'est... Je t'aime, oui, mais ça quand même pas, tu pourrais changer ça. Et puis cet amour vis-à-vis des autres, ça crée des séparations, des stéréotypes. Il y a ce groupe-là, il y a ces... Les races, on crée les groupes, on crée les... Tout ce qui crée séparation et qui fait qu'on n'a plus cette empathie pour l'autre. On oublie qu'on est tous humains et tous... Pareil. tous en recherche. Et ça crée beaucoup de souffrance. C'est de nouveau cet oubli, je pourrais être l'autre. Puis aimer les autres, c'est pas vraiment toujours facile. Donc on a besoin de développer cette ouverture. Parce qu'en nous, on a cet amour, cette bienveillance, mais on a tous une part de malveillance, d'ombre. Donc, qui est important de ne pas laisser nous envahir. Solzhenitsyn, il écrit quelque chose à ce propos de nous, qu'on est à la fois ombre et lumière. Si seulement nous étions tous plus simples, si seulement il y avait quelque part des gens mauvais qui commettaient volontairement des mauvaises actions et qu'il serait nécessaire de séparer du reste des bons et de détruire. Mais la ligne qui sépare le bien du mal traverse le cœur de chacun. Et qui parmi nous est d'accord de détruire un morceau de son cœur? Alors développer cet esprit ouvert, aimant, accueillir l'autre comme j'accueille moi, l'autre c'est moi en fait. Accueillir l'autre comme il est. Alors je peux être exigeant avec les autres, et puis je peux être exigeant avec moi aussi. Souvent je suis exigeante avec moi. Alors, bienveillance pour moi. Souvent, on a une image de soi, de l'autre, de ce qu'on aimerait être. Et on court après cette image, et puis c'est pas la réalité, c'est pas l'instant. C'est une projection. Et c'est important de se redire, je suis maintenant comme ça, j'ai du bon, j'ai du moins bon, c'est ok. L'autre a du bon, a du moins bon, c'est ok. Et c'est la pleine conscience qui nous aide à voir ça. Ici, particulièrement, on a cette chance. En étant ici, maintenant, on peut voir ces attachements, ces projections, ces affaires, ces projections sur les autres. Et tout ce que je vois, ben, c'est tout ça pris. C'est un mot. On chemine. Déjà, s'il y a l'intention, c'est déjà énorme. L'intention de bienveillance, l'intention de voir, l'intention de s'intéresser à ici et maintenant. Et petit à petit, on peut laisser faire, laisser être et ça s'ouvre. C'est quand même bonheur de pouvoir laisser être. Alors, en travaillant sur la bienveillance, on aimerait faire du bien. Ben de nouveau, faire du bien, c'est se projeter. C'est pas juste là, maintenant. C'est encore une idée, faire le bien. C'est super. Dans un sens, l'intention est bonne. Mais je peux être que ce que je suis maintenant. mais si je sens quelque chose puis que je veux être autre chose, ça crée ce tiraillement. C'est pas ce qui est. Ça crée de la souffrance, en fait. Et ici, donc, on peut voir, on peut comprendre, on peut accepter que il y a souffrance. On le sait, on le répète, on le vit. Il y a la frustration, il y a la peur de mal faire, d'être pas bon. Il y a le chagrin des fois le désespoir. C'est dur des fois. Et puis l'idée qu'on nous propose, c'est d'être avec. C'est justement cette compassion. C'est grâce à la compassion que j'apprends à être avec. Ça fait qu'il y a moins de réactions, moins de crispation contre. Et on comprend qu'il n'y a pas. Si on a vraiment compris que la souffrance existe, c'est pas qu'il y a une erreur, c'est pas qu'il y a quelque chose qui est faux, c'est la vie. Il n'y a pas un coupable. Et ça, je peux le voir ici, je ralentis, puis je peux voir. Peut écouter à l'intérieur. Je peux être là en moi sans réagir, sans réaction à ce qui arrive. Donc je peux aussi être avec la souffrance de l'autre. Parce que dukkha, c'est pour chacun. Compassion, c'est donc une réponse à la souffrance. La souffrance, la mienne, celle des autres. Et souffrance, il y aura encore. Donc, important de me rappeler l'impermanence. Je ne peux pas avoir quelque chose qui dure. Mais d'autre part, mon malaise, je peux avoir confiance qu'il va changer. Donc la sagesse m'aide à comprendre. Il y a dukkha, il y a l'impermanence. Donc je peux être avec. Sagesse et compassion. Et je vois. Parce que le moi, il a peur de souffrir. Et plus j'ai peur de souffrir, plus je me crispe, plus je souffre, en fait. Le moi, des fois, il n'arrive pas à être juste avec. Alors s'il est paumé, tout perdu, ben c'est là qu'il a besoin de compassion. Compassion pour l'autre, compassion pour moi. Et aussi bien pour l'autre que pour moi, dans un premier temps, je suis juste là avec. Dans ces phrases qu'on disait, je suis sensible à ma peine, je suis sensible à ta peine. Juste être là, sans chercher une solution ou une réponse ou une explication. Ça viendra après, dans un deuxième temps peut-être. Alors il y a quelque chose de dur, aïe. Je m'arrête. Je sens compassion. Ça devient une attitude aussi, ça, on se rappelle petit à petit. Et là, il y a aussi à être attentif, avoir du bon sens, avoir de la compassion pour l'autre qui va mal. Oui, mais il y a un moment où il faut peut-être dire stop, ne pas me laisser envahir en tout cas. Et ça, vraiment, c'est être attentif à ça. C'est un équilibre entre ouverture à l'autre et puis respect de moi et lâcher prise, laisser à l'autre son dukkha. Donc, je peux être présente à sa souffrance, mais aussi à la mienne, à son bien-être et aussi à mon bien-être. Parce que si je me laisse envahir, que je suis mal, je peux plus rien pour personne. Ni pour moi, ni pour l'autre, ni pour les autres et le monde. Alors je peux faire confiance que l'autre va faire ce qu'il y a à faire. Compassion et confiance. Pour recevoir ce qui est. Ce qui amène à l'équanimité. Mais avant l'équanimité, en même temps, il y a, donc on a ce cœur ouvert de metta, on a compassion pour la souffrance. Et puis quand l'autre est heureux, c'est ça qui manquait. Est-ce que je peux être heureux avec l'autre? C'est la joie. Mudita. La joie pour l'autre et pour moi, bien sûr. Je suis un autre pour moi. Et puis ça, c'est pas toujours évident. On peut vraiment le vivre. Si j'ai un voisin à qui tout réussit et qui en plus gagne au loto, puis moi, <là. rire> bien, moi j'ai un fils qui a gagné un concours. Ouh, on était content, on était tous très heureux pour lui. Mais son copain qui n'a pas gagné, c'est peut-être dur pour lui. Est-ce que lui pouvait être heureux pour son copain? C'est pas facile. On compare, on est jaloux. Et puis moi, toujours puis moi. Dans les contes, il y a beaucoup, hein, la marâtre. Elle supporte pas que sa belle-fille soit plus jolie, plus heureuse. C'est rude dans ses contes. Mais on a tous un bout de marâtre. On est tous un peu marâtre, des fois. Et ça, cette jalousie, cette comparaison, ben, ça crée la séparation. C'est le contraire du bonheur ensemble, de l'harmonie. On ne peut pas se réjouir ensemble. Pourtant, c'est sympa de se réjouir ensemble. Mais ça demande de lâcher moi, puis moi. Et pour moi aussi, dans ma vie, est-ce que je peux me réjouir de ce qui m'arrive de bon? si j'arrive à me réjouir pour moi, il y a plus de chances quand même que je puisse me réjouir pour les autres. Si je vois tout le temps le négatif, que je me critique, que c'est jamais bien, jamais juste, il y a peu de chances que ça soit juste et bon et bien chez les autres. Alors, si je suis heureux, il peut y avoir cette question, puis alors je risque de m'attacher. Il ne faut pas que je sois quand même trop heureuse, puisque j'ai appris que l'attachement, c'est pas bien. Que ça crée la souffrance, puis je le vis. Donc, je peux, mais alors, je peux vivre ce truc sympa, agréable, ce bonheur, et puis peut-être avec un peu d'attachement. Puis je vois, il y a l'attachement, c'est vrai. Je me rappelle, ça va changer, c'est vrai. Mais au moins, être heureux de ce qui arrive. À fond. Et puis ça, de nouveau, on arrive à la confiance. C'est bien, j'ai confiance maintenant. Alors la bienveillance, metta, la compassion et le bonheur, la joie. On dit la joie. Pour moi et pour l'autre. Si je peux vivre ça, eh bien, je peux vivre avec équanimité. C'est là la quatrième qualité. Ces quatre qualités qu'on appelle aussi les incommensurables. C'est sans mesure. C'est des qualités qui s'offrent à tout le monde. C'est comme le soleil qui éclaire tout. Il ne dit pas celui-là, il ne mérite pas. Il n'y a pas de calcul, c'est un souhait de bonheur pour chacun. Il n'y a pas de mérite, il n'y a pas celui qui n'est pas assez bon pour. Et c'est aussi valable pour nous, pour moi. Alors, Upekkha, l'équanimité, c'est en fait une recherche d'équilibre. L'esprit s'entraîne à voir, c'est comment maintenant. Maintenant c'est bon, super. Ça sera moins bon, peut-être pas super, mais oui. Je peux dire oui. Et c'est la sagesse qui me rappelle que le monde, c'est un monde conditionné. Je suis dans un monde conditionné. J'en fais partie, c'est tout bon comme ça. Je peux m'engager dans ce monde, il n'est pas parfait. Je peux ne pas donner trop d'importance aux autres, aux conditions, à ce qui se passe. C'est le monde conditionné. Il y aura toujours des choses difficiles. Mais la sécurité ne sera pas dans le monde ou dans les autres. La sécurité, elle est à l'intérieur, grâce à ce lien que je crée, à ce qui se passe. Ce qui n'est pas forcément facile, c'est de se dire qu'il n'y a pas la sécurité ailleurs. C'est le contraire de ce monde qui nous propose mille assurances, vie, accident, brise de glace. Et toujours il y aura des choses difficiles, et toujours ça va changer. Là on voit bien, il neige, l'autre jour il pleuvait, et demain on ne sait pas. Tout ce qui se passe dans le monde, c'est guerre, ces injustices, ces horreurs et toutes ces belles choses. Comment répondre à ça sans être indifférent, sans dire je ne veux pas savoir, en sachant, en voyant, en s'engageant pour ce qu'on croit juste et bon et qui peut apporter tout ce que je peux de bon, en acceptant les différences, toujours nos perceptions qui nous font trouver que l'autre quand même, les drôles de goûts, il a des drôles de façons de faire. Dans des petites choses, on peut voir c'est nos perceptions qui nous, auxquelles on croit tellement. Comment elle peut, toutes sortes, les trouver. En fait, si on comprend que moi non plus, je ne vois pas, l'autre non plus, il ne voit pas, l'aveuglement. Aveuglement, c'est ne pas voir. L'ignorance, c'est ça. Je crée du douloureux sans le vouloir. C'est l'ignorance. J'ai pas compris que ce que je crée, c'est... D'abord, ça vient de causes et de conditions, et puis ça va créer quelque chose aussi. Tous, on fait ça, on crée ce qu'on n'aimerait pas créer. Alors j'accepte de plus en plus que c'est comme ça, je fais de mon mieux, l'autre fait de son mieux, on peut avoir confiance et quelque chose peut lâcher. Et ce lâcher prise permet d'être ouvert, ce qui n'est pas forcément agréable. Ma prof d'anglais, elle nous disait « Life is not a picnic ». C'est vrai, des fois, c'est pas un pique-nique, des fois. Mais des fois, c'est un sympathique pique-nique. Et puis c'est super, des fois. Et quand c'est super, on peut voir des fois qu'il y a la peur. Cette peur que ça s'arrête. Parce qu'on sait que ça va changer. Alors on peut profiter, mais sans la peur. Et ça demande de la confiance. Ça demande de justement dire oui. Ce oui quand c'est bon et ce oui quand c'est moins bon. Mais un vrai oui, pas oui, mais quand même. Un oui, pas le mais. Il y a les difficultés et les joies de la vie, et puis il y a les difficultés et les joies de l'interrelationnel. Et des fois, en tout cas pour moi, des fois c'est très difficile. Quand on disait ces paroles d'équanimité, je t'aime profondément, mais tu es le créateur de tes actes et de leurs fruits, et tristement, j'accepte que je ne peux pas te protéger de la souffrance. C'est tellement difficile pour ceux qu'on aime de les lâcher. C'est du lâcher prise vraiment exigeant. Et c'est vraiment, ça demande vraiment de comprendre que si je fais confiance à l'autre, eh bien, en fait, c'est pas l'abandonner, c'est pas le lâcher, c'est le rendre libre. Et ça, c'est... Ouais, c'est fort. C'est de l'amour, en fait. Il y a un lord que je ne connais pas du tout qui a écrit « Comment atteindre l'équanimité ?» Il dit « Comment ? Eh bien, en ne faisant pas de grandes choses. Pourquoi les saints sont-ils saints ? Parce qu'ils savent être gais quand c'est difficile d'être gai et patient. Ils sont persévérants quand ils voulaient être tranquilles et sont restés silencieux quand ils voulaient parler. C'est tout. C'est si simple, mais si difficile. Une question d'hygiène mentale. Quelqu'un a exprimé en image, a donné l'image de ses qualités en disant Metta, c'est ce qu'on offre à un bébé qui vient de naître, cet amour inconditionnel, sans calcul, sans attendre. Mudita, le gamin grandit, il va à la petite école, il se fait mal, il tombe à la récré, son meilleur copain a trouvé un autre copain, et il rentre et on l'accueille avec compassion. On est là pour lui, ouvert à ses chagrins. Ça, c'est la compassion. Et l'enfant grandit. Et puis, il fait son apprentissage ou ses études, ou il passe un concours. Et puis, il réussit son examen. Alors, on est content. On est heureux avec lui, pour lui. Ça, c'est la joie. Et puis après, le gamin grandit, il devient adulte. Il se crée sa vie. Il mène sa vie, il est devenu indépendant. On l'aime toujours, mais ce n'est plus notre affaire. On le lâche. On l'aime toujours, mais c'est lui qui gère, c'est l'équanimité. Je le lâche, en fait. Je lui fais confiance et je le lâche. C'est une jolie image. Pour finir, je vais vous lire ce que Ajahn Sumedho dit de l'équanimité. L'esprit est comme l'espace. Il y a de la place pour tout et rien. Nous avons toujours une ouverture. Une fois que nous avons accès à cet espace dans l'esprit, à ce vide, les armées peuvent venir et passer, les papillons et les nuages, ou rien. Toute chose peut arriver et partir sans que nous ne soyons pris dans la réaction ou la résistance.